soir, clôture mardi dernier à Kinshasa du premier forum des entreprises et des investisseurs du monde francophone. Les participants ont recommandé entre autres la création d'une banque de développement, la création d'un réseau d'agences d'investissement francophones, ainsi que la mise en place des mesures d'appui aux petites et moyennes entreprises. Quelle analyse faire de ces recommandations? Quel pourrait être leur impact dans la relance de l'économie congolaise? Nous recevons pour en parler professeur Boabo Wakayembe, directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI. Professeur Boabo, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Honorable Germain Kambinga, député national de l'opposition et président de la sous-commission institutions financières nationales et internationales de la commission économique et financière à l'Assemblée nationale. Honorable Kambinga, bonsoir.
Bonsoir.
Alki Tengue, analyste économique, qui va nous rejoindre dans un tout petit moment. Merci à vous, le quatrième invité, chers auditeurs et internautes, pour vos réactions. Chef des travaux Jean-Bernard Mibé, commissaire de Mbandaka à l'Équateur. Avant de songer à l'amélioration de la compétitivité du monde francophone et à croître les échanges économiques au sein de cette communauté linguistique, il faut améliorer d'abord les rapports politiques entre ces États. Comment les pays qui se font la guerre peuvent-ils se mettre ensemble pour faire quelque chose? Camille Ouelepele est l'âtre de Kisangani en province orientale. Les retombées de ce forum profiteront plus à d'autres pays de la francophonie qu'à la RDC, car depuis qu'on a commencé à parler de l'amélioration du climat des affaires, rien n'a encore marché au pays. En plus, les petites et moyennes entreprises nationales sont l'objet d'une imposition excessive. Bienvenue à tous.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le tout premier forum économique organisé en marge du 14e sommet de la francophonie s'est clôturé mardi à Kinshasa. 13 résolutions ont été formulées en vue de consolider la solidarité et la compétitivité de l'espace francophone accusé de faiblesse et de retard face à d'autres blocs linguistiques. Longtemps négligé au bénéfice de la politique et la culture, l'Organisation internationale de la francophonie a estimé qu'il est temps de placer l'économie au centre de l'organisation pour lui assurer un avenir radieux. Daniel Tambinzoni.
Comment combler cet écart entre le politico-culturel et l'économique, caractérisé par le manque de financement, la lourdeur dans l'octroi des visas dans l'espace francophone, le manque d'infrastructures entre États? C'est à ces différentes questions que les différentes délégations réunies en panel ont réfléchi pendant 2 jours. Les inquiétudes soulevées lors des débats ont quasiment été toutes coulées en recommandations, 13 au total, à soumettre aux chefs d'État francophones. Tout début a toujours été difficile et l'organisation de ce premier forum économique de la francophonie n'a pas échappé à ce principe. Les moyens financiers n'avaient pas suivi, comme le reconnaît ici le professeur Bobo Wakayembe, principal organisateur.
C'est un problème d'organisation parce qu'il fallait que les participants puissent prendre en charge eux-mêmes leurs frais de séjour.
C'est que c'est déjà un problème pour un tout début.
On a été vraiment confronté à une question d'argent. On ne l'a pas fait comme on aurait aimé le faire. Beaucoup de gens étaient en train de demander des billets et des frais de séjour que nous n'étions pas capables de donner. Bon, on est content, on avait une trentaine de personnes étrangères dans la salle et je crois que pour la première édition, c'était quand même intéressant.
Une trentaine de personnes étrangères représentant une dizaine de pays alors que la francophonie en compte 79, il y a risque, selon certains observateurs, que ces résolutions ne soient pas admises par les absents.
Merci Daniel Tambinzoni. Professeur Boabo Wakayembe, vous êtes directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. ANAPI, professeur, en quoi ce forum économique organisé en marge du 14e sommet de la francophonie est une nouveauté?
Bon, c'est une nouveauté dans la mesure où jusqu'ici la plupart des sommets de la francophonie étaient des sommets essentiellement culturels et politiques. C'est depuis le dernier sommet organisé il y a 2 ans en Suisse, que les chefs d'État ont pris la conscience et ont ordonné que chaque fois qu'il y aura un sommet politique et qu'un forum économique soit organisé en marge. Donc c'est une nouveauté parce que la francophonie a décidé de prendre une nouvelle orientation vers l'économie. C'est pas seulement parler de la politique ou bien de la culture, mais également parler de l'économie, comment promouvoir les économies et relancer les économies des pays francophones.
Une première, mais visiblement, vous avez rencontré beaucoup de difficultés. Apparemment, les moyens n'ont pas suivi pour organiser ce forum.
C'est vrai, les moyens n'ont pas suivi, mais je n'aime pas tellement m'attarder sur la question des moyens. Parce qu'en fait, ce qui est important n'est pas de faire des choses dans de bonnes conditions, mais ce qui est important, c'est de le faire dans des difficultés. Et quand on réalise un travail dans des difficultés, ça fait plaisir. Et comme on dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Je crois que finalement, le nombre de gens, l'enthousiasme, leur détermination et tout, ça a été quelque chose qui a été capitalisé pour une bonne fin de ce forum.
Alors, revenons au fond. Pourquoi les pays francophones sont-ils en retard par rapport aux autres zones linguistiques, notamment sur le plan économique?
Je crois que sur le plan économique, effectivement, ils sont en retard. Il y a évidemment des raisons certainement internes à tous ces pays francophones. Il y a également peut-être des raisons qui tiennent à la culture francophone, hein, parce que la culture francophone, c'est toujours la culture portée sur la politique peut-être, alors que les anglophones sont portés sur le business. Il y a des raisons internes à chaque pays, c'est vrai. Il y a également des raisons qui tiennent à l'organisation même de la francophonie. Et au départ, c'était une organisation qui devait poursuivre, comme je l'ai dit ici, les objectifs d'ordre culturel. Ensuite, on a viré aux politiques et puis on s'est arrêté là-bas. Donc, je crois que si on prend la situation de notre pays, la RDC, il y a beaucoup de raisons d'ordre interne à la RDC. Donc les pillages, les congolisations, les aryanisations et toutes les mesures, le mauvais climat des affaires, les questions de la fiscalité et tout ça qui sont tout le temps soulevés par des gens, par les auditeurs. Mais je crois que toutes ces raisons font que le pays a connu un retard économique. Maintenant, au niveau de la francophonie, on a relevé beaucoup de problèmes. La difficulté d'avoir des visas, c'est très facile aujourd'hui d'aller en Chine, en Inde, qu'aller en France. La difficulté d'avoir des visas, la difficulté de pouvoir nous entendre sur un programme commun de travail, et tout ça, on fait que nous sommes en retard.
Alors, professeur, quand vous parlez, par exemple, de la culture francophone, parmi les difficultés en parcourant le rapport du forum, il y a par exemple une difficile circulation des biens et des personnes. Est-ce lié à une certaine méfiance au niveau des pays francophones?
Bien entendu, il y a des nationalismes exacerbés. Et si vous prenez la situation entre le Congo Kinshasa et le Congo Brazzaville, nous sommes là, des pays voisins, on n'arrive pas à faire un commerce structuré entre nous deux. Il n'y a pas de pont entre Kinshasa et Brazzaville, il n'y a pas de pont ou bien de route entre le Congo Kinshasa et la République centrafricaine ou le Cameroun. Et donc, toutes ces économies sont des économies qui évoluent en autarcie. Il y a des nationalismes. On préfère bien faire venir un produit, je ne sais pas, de la Chine ou bien des États-Unis plutôt que de Kinshasa. Et donc c'est ça, c'est tout ça. Il faut que nous puissions nous battre contre toutes ces attitudes, parce que maintenant on doit être conscient que les marchés ont été globalisés. Et les gens cherchent à avoir affaire à des marchés qui sont beaucoup plus importants, qui dépassent les frontières nationales. Donc je crois qu'à tous les niveaux, il faut se remettre en question.
Une autre difficulté, avant que je ne donne la parole à l'honorable Germain Kambinga, professeur, c'est la difficulté pour la mobilisation des finances.
Oui, la mobilisation des finances, c'est un problème important. D'ailleurs, je pense que c'est pour cela que les agences nationales pour la promotion des investissements ont été créées, pour chercher à attirer des investissements étrangers vers les pays dans lesquels ces agences sont créées. Mais il y a également les efforts qui ont été fournis ou qui sont en train d'être fournis pour relancer le système bancaire, et de telle sorte qu'on puisse avoir affaire à des financements un peu à moyen long terme plutôt que des financements à très court terme à des taux d'intérêt exorbitants comme pour le moment. Donc la question de financement occupe une place très très importante dans la relance des économies ou bien dans la relance des investissements.
Honorable Germain Kambinga, vous êtes député national de l'opposition et président de la sous-commission institutions financières nationales et internationales de la commission économique et financière à l'Assemblée nationale. Comment avez-vous accueilli l'organisation de ce forum économique?
Écoutez, le professeur Bawa Kayembe est un homme très volontaire. Nous avons toujours été admiratifs de son combat pour la promotion des investissements à RDC, mais c'est un combat effectivement qui relève du titanesque. C'est vraiment David contre Goliath. Les enjeux sont au-delà, malheureusement, des capacités ou des prérogatives des agences de promotion des investissements. Pour la simple et unique raison que l'essentiel du problème tel qu'il se pose au Congo, comme dans la plupart des pays africains, est un problème de sécurité judiciaire et juridique des investissements. Les investisseurs ne viennent pas dans un pays parce que vous dites « venez ». Ils viennent parce que, par des paramètres ou des informations indépendantes qu'ils ont, ils considèrent que le risque pays est suffisamment bas pour que la rentabilité de l'investissement puisse être mise en balance avec le niveau de risque dont j'ai parlé précédemment. Maintenant, la francophonie, la problématique posée au niveau de la francophonie est une problématique qui voudrait considérer que c'est dans l'intégration que nous pouvons trouver des solutions à les difficultés internes. Ceci également est une gageure dans la mesure où la francophonie a un problème essentiel, c'est qu'au départ, ce n'est pas une institution qui a vocation à faire de l'économique. C'est maintenant qu'elle veut se donner cette ambition, notamment depuis quelques années, et plus précisément à travers ce sommet de Kinshasa. Pourquoi? D'abord, c'est pour de très mauvaises raisons. C'est parce qu'effectivement, la France-Afrique a trouvé des limites. Parce que, à la différence du Commonwealth, il faut bien comprendre les choses, les anglo-saxons ont pris à bras-le-corps la problématique commerciale, économique et financière dès le départ. Les francophones, eux, ont préféré travailler avec des officines de type France-Afrique, c'est le cas de l'espace francophone, reléguant l'idée de francophonie à une idée culturelle, d'ailleurs suscitée par des chefs d'État africains comme Léopold Sédar Senghor. Donc, c'est ce changement de paradigme qui semble vouloir s'opérer à partir de maintenant n'est qu'une amorce face à une problématique très complexe. Je vous ai expliqué que les problèmes sont d'abord internes au niveau de chaque pays africain. Ensuite, la francophonie, c'est un espace immense, ne contenant pas que des pays africains. Ce qui pose maintenant des problèmes de ce qu'on appelle dans les théories d'intégration des critères de convergence. On veut créer un espace favorable à l'investissement et au développement des petites et moyennes entreprises. Qu'est-ce qui pourrait faire que des petites et moyennes entreprises soient développées dans les pays africains très pauvres? Parce que j'imagine que dans d'autres pays francophones, comme le Canada, comme la Belgique, ce problème ne se pose pas. Ce serait donc un débat qui serait celui de savoir, en intégrant les capacités financières, en intégrant les capacités d'initiative, comment faire pour que là où ça va un peu mieux dans l'espace francophone, on ait la volonté ou l'intérêt de venir investir là où ça va un peu moins bien, c'est également ça le bénéfice de l'intégration, pour que finalement il y ait une émulation au niveau des petites et moyennes entreprises. Cette problématique ainsi posée soulève les problèmes des critères de convergence, je l'ai dit précédemment. Il faut pouvoir établir, oui, je disais, les critères de convergence qui rendraient cette démarche plus efficace. Sinon, cela restera une conception de l'esprit intéressante, du même type que le NEPAD et beaucoup d'autres initiatives auxquelles l'Afrique nous a habitués.
Honorable, vous parlez de la sécurité juridique et judiciaire à ce sujet. Dans les recommandations, il est par exemple demandé que les États qui sont encore dépourvus se dotent le plus rapidement possible des paquets législatifs, sécurisant, clarifiant le rôle des différents acteurs et adaptés aux normes internationales. N'est-ce pas déjà un point de départ?
Mais écoutez, là vous confondez l'instrument et l'utilisation de l'instrument. vous pouvez avoir des instruments de législatifs intéressants, mais c'est leur application qui pose généralement problème dans des pays où des valeurs démocratiques sont encore en gestation, comme dans les nôtres. Ce n'est pas un cas spécifique du Congo. Regardez dans la sous-région, dans l'essentiel des pays dits de l'espace francophone, nous sommes relativement en retard dans les initiatives multiformes de démocratisation. Et il n'y a quasiment aucun pays francophone, de l'Afrique notamment, qui peut être considéré comme un exemple de démocratie, et Sénégal excepté, je voudrais dire. Donc à partir de là, la question de la sécurité juridique et judiciaire des investissements va au-delà du simple arsenal juridique, mais va même dans la crédibilité que les investisseurs étrangers et même nationaux accorderait à ces instruments juridiques, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas tout de dire nous allons nous doter d'instruments juridiques qui sont en fait, qui n'ont de valeur que si, au départ, les uns et les autres ont la garantie que ces règles seront respectées. Merci. Et appliquées au même niveau pour les uns et les autres. Donc le problème fondamental, il est celui-là, et ce n'est que lorsque on aura cette garantie par des instances indépendantes et neutres, que le niveau de risque pays va baisser. Merci. Que les investisseurs étrangers et même nationaux qui sont des juges peureux décideront de mettre leur argent en jeu.
Merci.
Pour le reste, nous considérons qu'effectivement, nous ne pouvons pas nous permettre des économies d'initiative. Nous encourageons le professeur Bobo Akayembe, mais nous ne devons pas perdre de vue que la problématique est au-delà des solutions proposées et que
c'est
évidemment complexe.
Merci, honorable Alki Tengue. Bonsoir, vous êtes analyste économique. Comment vous analysez l'organisation de ce forum économique?
Mon point de vue est simple. L'organisation de ce forum économique était une nécessité. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit en français. C'est très bien que ça ait pu commencer chez nous. Ça pose deux grandes questions. La première, c'est la théorie totalement fausse que véhiculent les intellectuels africains qui répètent matin, midi, soir ce que les gens veulent dire sur nous. Parlant par exemple de cette question de risque qu'évoquait l'honorable tout à l'heure, le risque est décrit par les différentes ambassades dans nos pays. Plus grand il est décrit, mieux ils sont payés, parce que leur risque est proportionnel, leur paiement est proportionnel au niveau de risque qu'ils prennent. Le drame, c'est que les pays africains, notre pays ne fait pas exception, ne fait pas un effort pour se vendre différemment, pour se montrer dans sa plus belle robe. Quelque chose devrait attirer notre attention. La Chine a décidé de nous regarder autrement. Et a décidé de venir investir et s'investir en Afrique et particulièrement au Congo. Regardez le degré d'agitation qu'il y a dans les milieux occidentaux. Ça montre que, au-delà de ce que l'on décrit, de ce qu'on voudrait décrire sur nous, de la manière dont on voudrait nous décrire, nous restons une véritable opportunité. Cet après-midi, je suivais encore l'intervention du président français. Il dit, l'avenir de l'Europe est là où se passe la plus grande croissance. Et c'est en Afrique. Il est donc important que nous écrivions nos propres théories économiques qui tiennent compte des réalités africaines, que nous prenions le leadership de l'économie congolaise. Moi, j'ai toujours peur d'entendre des intellectuels congolais, des intellectuels africains qui répètent matin, midi, soir ce que les autres veulent dire sur nous. Je ne crois pas qu'il y ait une théorie économique existante qui peut réellement régler les problèmes de fond en comble tels qu'ils se présentent aujourd'hui dans un pays aussi déstructuré que le nôtre. Parlons de quelque chose de simple, c'est l'intégration de l'économie nationale. Nous avons une économie nationale quasiment inexistante, mais ce n'est pas les théories qui sont faites à Londres ni aux États-Unis qui peuvent réellement régler ces questions. Moi, j'en appelle tout le temps aux Congolais et aux Africains à la réflexion profonde, au courage intellectuel, à s'essayer à pouvoir penser. Un jour, il y a eu Keynes, mais il répondait à des problématiques spécifiques de ce moment-là et de cet endroit où il se trouvait. Aujourd'hui, on a besoin de quelques Congolais, de quelques Africains, pour réellement analyser de fond en comble les questions qui sont les nôtres. Mais aujourd'hui, pour parler de ce forum économique, j'estime qu'il faut le saluer. Et qu'il commence chez nous est peut-être un signe divin. Et il est important que nous nous rendions compte que nous devons concevoir notre économie.
Alors parmi les problèmes, les difficultés que rencontrent les États de la francophonie, Alki Tengue, peut-on parler de volonté politique? Parce qu'on s'est par exemple rendu compte en observant la ville de Kinshasa, Kinshasa, à l'annonce de ce forum, il y a des grands travaux qui sont entrepris en très peu de temps, l'électricité qui devient tout d'un coup très stable, il y a des routes aménagées, la propriété qui ressurgit, et donc on sent quelque part qu'il y a moyen de bien faire s'il y a suffisamment de volonté aussi.
La volonté ne suffit pas, Alain. Il faut regarder de manière assez simple des pays comme l'Afrique du Sud. Regardez les programmes gouvernementaux. Chaque semaine, il y a un événement qui se passe. Et vous savez, c'est comme chez vous, si vous savez que des visiteurs vont venir, vous décarcassez un petit peu, vous faites un peu plus de propreté que d'habitude. Le drame d'un pays comme le nôtre, c'est qu'il ne s'y passe rien. Et dès qu'il ne se passe rien, nous fermons les yeux, nous devenons paresseux, et on commence à vivre un petit peu à la routine. Je pense qu'il est bon qu'il se passe des choses dans notre pays. C'est dramatique qu'on ait refusé de prendre la CAN pour le Congo dans les prochaines années. C'est dramatique qu'on n'ait pas des événements chez nous qui fassent venir beaucoup de personnes chez nous. Parce qu'en fait, les événements qui se passent aussi bien dans le secteur culturel que politique que dans les autres secteurs sont des occasions pour nous renouveler. Un pays qui ne se renouvelle pas, il vieillit. Et c'est une très très bonne chose qui démontre de manière assez claire que nous sommes capables de le faire. Est-ce un problème de volonté politique ou est-ce un problème de capacité politique? Je ne peux pas vous répondre.
Prenons cette réaction qui nous vient de Beni au Nord Kivu pour Voile Kitenge.
D'abord, aussi de Beni à province du Nord Kivu. Je pense que tous les États du monde francophone n'ont pas le même niveau économique. C'est pourquoi, à mon avis, il fallait qu'à l'issue de ce forum, des recommandations soient formulées à l'adresse des gouvernements des pays pauvres du monde francophone pour les aider à atteindre un niveau de vie économique acceptable et ainsi à rendre leurs entreprises viables.
Al-Kitenge. Je comprends pertinemment l'inquiétude de notre frère, mais il faut quand même savoir qu'il y ait des pays pauvres et des pays riches, c'est une opportunité mutuelle. Aujourd'hui, ce qui intéresse les pays pauvres par rapport aux pays riches, c'est le potentiel technologique et financier. Mais ce qui intéresse les pays riches par rapport aux pays pauvres, ce sont nos ressources humaines et l'opportunité de croissance. Je crois que nous représentons une opportunité mutuelle. Il s'agit pour chacun d'entre nous de pouvoir se doter d'un plan stratégique qui lui permette de tirer profit de la réalité économique telle qu'elle se présente pour l'instant. Je crois qu'il y a des responsabilités locales et je crois aussi que le réseautage est quelque chose de très positif. Et le réseautage dans un environnement où vous avez plus ou moins la même culture, la même vision et vous parlez une langue qui vous permet de vous entendre est une très bonne chose.
Alors, encore toujours parmi les difficultés, ça nous permet en même temps de voir les recommandations. Il a été relevé par exemple au cours du forum que l'aide publique au développement manque de visibilité et est difficilement compatible avec les plans de développement à long terme. Al-Kitenge, vous avez parlé d'une économie adaptée aux réalités de la RDC, par exemple.
Oui, vous venez de le dire de manière assez claire, il faut avoir un plan national de développement. À partir du moment où vous ne l'avez pas, même l'aide au développement ne peut pas vous servir parce que ça devient l'aide à quelque chose qui n'existe pas. Il faut avoir une visibilité sur le long terme, ça vous permet d'attirer des gens qui viennent s'engager à vos côtés de manière stratégique. Je crois qu'une des choses qui manque cruellement aux pays africains, c'est de se décider, de savoir où ils veulent être dans 15 ans, où ils veulent être dans 30 ans. Et je crois que c'est un appel que je fais tout le temps que je passe dans vos antennes, c'est de dire aux gens, nous, Congolais, nous devrons décider de manière collégiale, au-delà de nos couleurs politiques, où est-ce que nous désirons amener ce pays et où est-ce que nous voulons que ce pays soit quand il sera commandé par nos enfants et nos petits-enfants.
Professeur Boboa Kayembe, vous avez suivi l'honorable Kambinga et Al-Kitenge. Comment vous analysez leur réaction?
Bon, j'ai suivi l'honorable Germain Kambinga et j'ai noté deux ou trois points dans son intervention. Tout d'abord, la question de la sécurité juridique et judiciaire. Ensuite, le fait que le Commonwealth ait été basé essentiellement sur l'économie, alors que la francophonie avait tendance à être focalisée seulement sur le culturel. Et puis, il a évoqué la question de la démocratie. Bon, en ce qui concerne la sécurité juridique, il faut quand même savoir que ce n'est pas quelque chose qui se décrète. C'est vraiment... C'est toute une culture qu'on met en place. Hein. C'est une culture qu'on met en place. Et dans notre pays, dernièrement, il y a quand même de nouvelles lois qui ont été mises en place. Le code d'investissement, le code minier, le code forestier, etc. Ce sont des lois qui sont là pour assurer la sécurité juridique et judiciaire. Mais nous venons de... On a connu une situation qui était extrêmement difficile à travers les années, et ces situations ne peuvent pas s'arranger comme par une baguette magique aujourd'hui. Il faut qu'on sache que c'est un processus. et que dans ce processus, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites, il y a d'autres qui sont moins bien faites et que avec le temps, cette question sera résolue. Vous savez que le pays a accédé à l'OADA dernièrement, ça permet de mettre en place des principes du droit commercial tout à fait modernes et qui sont appliqués également dans plusieurs pays francophones. En ce qui concerne le Commonwealth, oui, c'est vrai, le Commonwealth, dès le départ, avait comme objectif de pouvoir développer l'économie, alors que la francophonie, ce n'était pas ça. Mais mieux vaut tard que jamais. Le problème, c'est de dire que on a pris conscience de cette situation. Déjà, le sommet de la francophonie de Kinshasa, il a comme thème les enjeux environnementaux et économiques, etc. Donc, c'est que ils sont conscients du fait que nous devons maintenant focaliser notre attention sur l'économie. Je pense que c'est un changement qui va certainement avoir des effets d'entraînement visibles sur notre situation.
Alors, professeur, parmi les recommandations, il est par exemple dit que l'Afrique peut aussi mobiliser l'expertise de sa diaspora pour contribuer à sa reconstruction. Apparemment, l'espace francophone n'a pas encore su capitaliser la diaspora.
Oui, je dirais peut-être oui et non, parce qu'il y a des pays francophones comme le Mali, le Sénégal, qui ont mis en place tout un système de promotion des apports de la diaspora. Et par exemple, il y a des quartiers entiers qui sont construits au Mali par les gens de la diaspora, au Sénégal, etc. Mais il y a des pays comme nous autres qui n'avons pas mis en place des systèmes disons d'accueil des intentions d'investir de ces gens-là. Par exemple, il n'y a pas de quartier particulier où ils pourraient développer des projets d'immobilier ou autres. Il n'y a pas de facilité à caractère douanier et fiscal destinée à ces gens-là. Il n'y a pas d'autres facilités, notamment au niveau de... Vous savez, la plupart des banques toujours que soit réglée cette question de double nationalité pour être à même de bien évoluer. Je crois qu'il y a tout un travail. Il avait été créé un ministère de la diaspora, je crois, dans notre pays. Malheureusement, ce ministère a été supprimé. Je crois qu'il y a un travail à faire pour rendre visible le travail de la diaspora dans notre pays. Mais je voulais dire un mot en ce qui concerne la démocratisation. Vous savez que pendant longtemps, la Chine a été considérée par des pays européens comme un pays non démocratique. Et puis la Chine s'est enfermée, elle a travaillé. Aujourd'hui, tous les pays occidentaux s'en vont en Chine pour chercher à obtenir des financements et autres. Donc je crois quand même que on ne doit pas trop insister sur la démocratie comme une valeur qui doit être là par une baguette magique. Comme je l'ai dit ici, c'est un état d'esprit, c'est un travail qu'il faut faire pour rendre le pays démocratique. Vous savez, la France aujourd'hui, elle a combien de siècles d'existence en tant que pays par rapport au Congo. Donc, on ne va pas dire, voilà, parce qu'il n'y a pas de démocratie, on ne peut rien faire. Non, je pense qu'on doit chercher à faire ce qu'il faut faire sur le plan économique, sans mettre toujours des parallèles avec la politique, parce que les exemples...
Mais la démocratie, ne serait-elle pas un atout de plus
Mais c'est un élément de la culture aussi. Hein. Vous savez, les pays comme la France sont arrivés à la démocratie peut-être après 2000 ans, je ne sais pas moi. Et nous n'avons que 50 années d'existence en tant que pays. Et nous n'allons pas dire, voilà, on arrête tout avant d'être, on doit être démocratique avant de chercher à attirer les investisseurs. Alors que nous avons dans notre pays, comme l'a dit Arkitenge, des ressources minérales et autres qui sont recherchées par les investisseurs dans le monde entier.
Honorable Germain Kambinga, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Butembo, Nord Kivu.
Joël Boussibo de Butembo, au Nord Kivu. Ces recommandations paraissent vraisemblablement bonnes, mais je crains que la francophonie se substitue à un courant qui partagera plus tard le monde. À la création, elle était pour des échanges culturels. Aujourd'hui, elle commence à avoir des connotations politiques, voire économiques. Et notre adhésion ou notre ratification à ces traités soit réfléchi, car à l'économie, c'est question des intérêts et non des appartenances.
Honorable Kambinga, vous avez tout à l'heure parlé de l'intégration régionale. Faudrait-il craindre que dans cette intégration, la RDC finalement n'ait pas grand-chose à apporter?
En fait, je n'ai pas parlé d'intégration régionale, j'ai parlé d'une initiative intégrative. Je veux dire, cette idée d'utiliser l'espace francophone comme un espace de promotion des initiatives économiques allant dans le sens des intérêts des petites et moyennes entreprises, peut-être initiative intégrative. Maintenant, j'ai quand même deux petites réactions. La première, elle va vers M. Alpitengue, qui tout à l'heure semblait s'enfermer dans une sorte de nombrilisme vantant les mérites de l'Afrique, du Congo, et j'en passe. Premièrement, je n'ai pas du tout posé la problématique au niveau de la RDC, ni contesté les potentialités africaines. Ce que je voudrais simplement rappeler, c'est que en économie, nous les économistes, nous considérons généralement que les particularismes ne sont pas scientifiques. Ce que Keynes a dit il y a une cinquantaine d'années est tout à fait valable aujourd'hui en termes de lois économiques. Ce qui est vrai au Congo doit pouvoir l'être aux États-Unis, ce qui est vrai aux États-Unis doit pouvoir l'être au Congo. Le tout, c'est de s'arrimer et de se donner les moyens d'être au niveau de la compétition internationale. La problématique doit être à ce niveau. Le Congo ne vit pas dans un monde à part, nous sommes dans un monde mondialisé. L'Afrique, encore moins l'espace francophone, doit donc, si elle veut survivre, se mettre au diapason de l'universalité en étant compétitive et en s'arrimant aux critères que impose la compétition internationale. Pour cela, il faut d'abord reconnaître quels sont les standards. Et lorsque nous parlons de standards, ça nous ramène un certain nombre de critères qui vont, je suis désolé, au-delà des considérations nombrilistes. Nous sommes tous d'accord que l'Afrique c'est beau, il y a du soleil, l'Afrique c'est beau, il y a de la forêt, l'Afrique c'est beau, il y a des ressources naturelles, mais tant qu'elles ne sont pas exploitées, tant que Kounda Batouaré d'hier, aujourd'hui Bosco Tagada, le M23, foutent du désordre à l'est de notre pays, l'investisseur de l'espace francophone, le vietnamien, qui aurait envie, en regardant sur Internet, de venir à RDC, ne viendra pas, quelles que soient les potentialités que le Congo a. Et c'est à ce niveau que je posais la problématique pour considérer que les questions de sécurité juridique et judiciaire, les questions de sécurité tout court, sont des questions essentielles qui influencent les problématiques de risque pays. Et ce n'est pas, dire cela, ce n'est pas importer des théories. Les théories, je suis désolé, elles sont là pour faire avancer l'humanité. Les lois scientifiques, elles sont les mêmes partout. Et elle devrait pouvoir s'appliquer au Congo. Parlons de la démocratie. Le professeur Mbakayembe prenait l'exemple de la Chine, qui est un exemple de développement auto-centré. Ils n'ont jamais eu besoin de faire appel à l'espace francophone, à des investisseurs étrangers ou une agence de promotion des investissements au niveau national pour se développer. Ils ont utilisé leur territoire qui est immense, leur population et le génie chinois pour aujourd'hui être le premier fournisseur des biens manufacturés au monde, le premier fournisseur des actifs financiers au monde, et c'est un exemple tout à fait particulier. Si nous voulons faire la même chose, sortons du cadre de la francophonie, faisons un développement auto-centré comme l'avait suggéré Laurent Désiré Kabila, et alors, dans ce cas-là, nous pourrions faire fi des problématiques démocratiques, qui sont des critères déterminants lorsque on veut faire appel à des investisseurs étrangers.
Merci.
Lorsqu'on compte sur l'indicateur Doing Business, lorsqu'on compte sur l'ensemble ou l'arsenal, si vous voulez, des instruments internationaux qui permettent de juger les nations.
Merci.
Lorsqu'on se soumet à la parole de François Hollande, ou si vous voulez, aux critères que François Hollande définit pour pouvoir être président RDC, lorsqu'on reconnaît tout cela, on doit pouvoir reconnaître que la démocratie est essentielle.
Merci.
Donc, alors, on s'enferme dans ce que je considère être la politique de l'autruche, et ce n'est pas porteur.
Merci honorable. Merci honorable Germain Kambinga. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Alkitenge, nous allons directement prendre la deuxième partie de cette émission en parlant de l'organisation de ce forum. Vous avez dit que c'était une nécessité, mais quel pourrait être l'impact de ce forum finalement sur la relance de l'économie congolaise?
Je pense que l'une des choses qu'il faut considérer comme un véritable atout d'un forum comme celui-ci, c'est qu'il vous donne la possibilité de vous comparer à d'autres. Donc vous pouvez importer les bonnes habitudes et les bonnes réussites. Vous pouvez également éviter les erreurs qui ont été commises ailleurs. Deuxième chose, en se mettant ensemble, on a beaucoup plus de chances qu'en restant tout seul, cela reste naturellement vrai. Mais moi, je voudrais quand même dire une chose, et elle est simple. Je pense qu'il ne faut pas faire attention à ce que moi je considère comme l'esclavage intellectuel.
C'est-à-dire,
c'est bien de lire des livres, mais chaque livre fait partie d'une histoire, d'un moment particulier. Et stratégiquement, moi je me pose toujours des questions simples. Comment on fait lorsqu'on est un pays où l'espérance de vie est à 48 ans et on va à la retraite à 65 ans? Est-ce qu'on importe une théorie française ou une théorie américaine pour résoudre ce genre de questions? Non. Il faut réfléchir stratégiquement sur les problèmes tels qu'ils se posent chez nous. Un intellectuel, c'est celui qui est capable de prendre des théories fondamentales qu'on a apprises à l'école et qui les met en pratique dans ses réalités. Et tant que le Congo ne comprend pas qu'on ne peut pas être une nation économiquement organisée avec 5% de personnes qui sont employées de manière officielle, et qu'il faut résoudre cette question, et ça c'est une question congolaise, il n'y a aucun pays au monde qui a une réalité qui ressemble à la nôtre. En ce moment-là, l'ordre de priorité, lorsque vous n'êtes pas les yeux fermés, devient très 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 important. En ce moment-là, les choix stratégiques consistent à regarder comment ça se passe ailleurs. Et si vous avez un espace dans lequel vous pouvez même dialoguer et être en mesure de communiquer dans la même langue, c'est une opportunité qu'il faut prendre. Moi, je suis assis sur deux chaises. Je suis une partie francophone, je suis une partie anglophone. J'ai donc la possibilité de regarder, de comparer les deux. J'ai entamé d'apprendre le chinois, parce que je pense que une des autres choses que nous devons apprendre très rapidement, c'est la manière dont les Chinois ont réussi leur miracle. Mais ma conception est simple, c'est que nous devons arrêter de ne regarder que ce que les gens disent de nous. Nous devons être en mesure de nous poser la question de savoir quelle est notre réalité et quelle est la réponse que nous y donnons. Pleurer, on pourra pleurer jusque demain, ça ne changera absolument rien. Se plaindre, on peut continuer à se plaindre. Il ne faut pas attendre qu'un jour on soit tous présidents de la République pour être en mesure de bouger ce pays. Ce n'est même pas possible, ce n'est même pas faisable. Il y en aura toujours un à la fois.
Deux auditeurs pour vous, Jean-Harry Enzama, d'Ariwara en province orientale. La relance économique n'est pas un problème, il suffit que l'État cesse de voler l'État, pas trop de réglementation, ne profitant qu'aux individus que de fournir le trésor public pouvant encourager les entreprises économiques. Augustin Caïndo de Liège, en Belgique, peu de nouveautés et beaucoup de redites. L'impact de l'application de ces recommandations en RDC dépend de l'amélioration du climat des affaires, ce qui suppose la sécurité militaire, juridique et judiciaire, la lutte contre la corruption, la réduction des formalités administratives, la baisse de taux d'imposition, la transparence des procédures administratives et j'en passe. Al-Kitenge, la sécurité, c'est également un problème.
Nous sommes dans ce qu'on appelle l'ère électronique. Il y a quelque chose de très bien qui est de notre côté. Ce sont les technologies. Si nous transposons la manière de travailler d'aujourd'hui, celle du face-à-face et du cash, nous la transposons dans l'ère électronique, vous allez vous rendre compte que 80% des problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui vont disparaître tout seuls. Regardez tous les pays qui vont vite. Ils se sont mis à l'électronique, ils se sont mis à l'informatique, ils se sont mis à l'automatisation des process. Et il est donc important que notre pays se rende compte que son choix stratégique passe par sa capacité à s'approprier les technologies. Mais qu'est-ce que c'est que les technologies entre les mains des illettrés? Ça pose toute une question de quel est le degré de financement que nous avons aujourd'hui pour former nos enfants pour que dans 15 ans ils deviennent compétitifs et qu'ils résistent à l'invasion intellectuelle. Ça, c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce que c'est ce pays où les gens meurent à 48 ans? Avant même que vous ne puissiez rendre à votre république, vous êtes mort. C'est une question fondamentale qu'il faut qu'on mette sur la table. Il faudrait qu'on travaille dessus pour que nos intellectuels ou nos enfants aillent le plus loin possible intellectuellement et qu'ils vivent le plus longtemps possible. C'est toute la question de la sécurité et de la soutenabilité d'une nation. Avant de s'intégrer, il faut exister. Et la République démocratique du Congo est très très fragile. Tout le monde le dit, nous sommes un État précaire. Il est important qu'on sache se consolider. Et ça, encore une fois, c'est des choses qui dépassent la politique. C'est des questions de société, c'est des questions de nation. Et il est important que les Congolais sachent, lorsque c'est nécessaire, taire leur pulsion politique, leur appartenance et leur quoi politique, pour regarder les réalités de notre pays. Nous qui ne pratiquons pas la politique, nous sommes malheureusement obligés de subir des fois des rivalités inutiles. Et nous pensons qu'il est important que le pays se regarde en face.
Professeur Boisbois, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Goma au Nord Kivu.
Dans la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, il n'y a pas d'économie sans paix. Que diriez-vous aux gens de l'Est qui passent nuit à la belle étoile à cause de la multiplicité des groupes armés? Ces gens n'ont pas besoin d'économie. Ils veulent la paix et rien qu'est la paix. Quelles sont les stratégies pour lancer une économie d'un État en guerre? L'économie congolaise se trouve dans les poches de ses dirigeants. La population n'en bénéficie même pas.
Professeur, dans le même sens, j'ajoute deux petites réactions. Willy, à mon avis, de toutes ces recommandations, aucune n'est adaptée à la situation de la RDC. La première chose à faire pour les dirigeants congolais, c'est de mettre fin à la guerre et d'harmoniser le climat des affaires. Docteur Anissé Roger de Kinshasa, que notre invité, le professeur Waba, nous dit si toutes ces recommandations formulées contribueront à finir avec les guerres à l'est de la RDC, car tout cela ne peut être envisagé par la RDC que si sa partie Est vit dans une paix certaine, professeur.
Merci beaucoup. Je voudrais remercier David et Willy pour leurs préoccupations sur la guerre à l'Est qui sont tout à fait fondées. Et nous sommes, ils sont citoyens de ce pays ici. Et si l'Est est affecté, c'est nous tous qui sommes de ce pays qui sommes affectés. Mais ce que je peux dire, c'est que nous avons fait une réflexion sur l'économie. Mais il y a d'autres collègues qui sont des diplomates qui continuent à faire des réflexions sur la guerre, comment terminer la guerre. Vous savez, il y a plusieurs réunions, beaucoup de réunions qui se tiennent dans le cadre de la CIRGEL ou bien dans le cadre des Nations Unies pour essayer de mettre fin à cette situation de guerre. Je pense que la guerre va se terminer. Mais on ne peut pas dire on arrête tout parce que la guerre est là, on arrête tout. Il y a des pays où il y a des guerres. Je pense même que chaque pays, être un pays, c'est-à-dire être confronté à la guerre. Ce n'est pas parce que la guerre est là qu'on doit tout arrêter, on ne peut pas penser à l'économie, à produire, etc. Donc je crois que même là, à l'Est, à Béni, j'ai même dans le forum, il y avait des gens qui venaient de Béni, qui nous ont expliqué ce qu'ils sont en train de faire. Quelqu'un a exposé ses jus, ses maracujas, qu'il produit jusqu'à aujourd'hui, sans dire, voilà, il y a la guerre, j'arrête.
Merci.
Tout.
Honorable Kambinga, je signale en même temps qu'il nous reste moins de 5 minutes pour terminer cette émission. Honorable, quel pourrait être pour vous l'impact de toutes ces recommandations, des recommandations de ce forum sur la relance de l'économie congolaise? Très brièvement. Je vous en prie.
Écoutez, ben évidemment, avant d'arriver à quelconque impact, il y a d'abord des problèmes internes qui doivent être résolus. Montesquieu disait qu'il aimait les paysans parce qu'ils n'étaient pas assez instruits pour se tromper. Donc la vérité sur l'avenir de ce pays et l'impact de toutes ces recommandations ou d'une quelconque réforme repose sur ce que le peuple, dans son être profond récent, il ressent. De la misère, une misère sociale importante, une misère sécuritaire, et ce sont des appels venant de l'Est qui nous le rappellent. Donc nous sommes fondamentalement, nous, au niveau interne, assujettis à ces problématiques-là. Donc avant que d'arriver à un niveau où toutes ces recommandations qui sont des recommandations qui n'ont de valeur que si elles sont prises en compte par l'ensemble des partenaires, avant d'en arriver à des résultats probants, il faudrait qu'il y ait des résolutions spécifiques au niveau interne de chacun des pays francophones ayant des problèmes. Donc, pour nous, c'est ça le préalable.
Alors, un mot en guise de conclusion, honorable Kambinga.
Écoutez, nous encourageons cependant le professeur Mbowa Kayembe dans son initiative. Comme je l'ai dit précédemment, nous ne pouvons pas nous permettre des économies d'initiative parce que les problèmes ils sont profonds. Il faut continuer à creuser de proche en proche. Nous espérons que tous ensemble, main dans la main, nous allons arriver à redresser le géant Congo. Et peut-être que le bénéfice que nous aurons à retirer de l'espace francophone n'est pas du tout à négliger par ailleurs.
Merci honorable Germain Kambinga. Al-Kitenge, l'intégration économique, finalement, peut-elle être une solution à la guerre de l'Est, en guise de conclusion?
Lorsque vous regardez ce qui se passe à l'Est, vous vous rendez bien compte que même la paix a un prix. Et quand on parle de prix, on est dans une question économique. Une grande composante de la guerre de l'Est est économique. Il faudrait qu'on s'en rende compte. Il faut seulement se poser la question de savoir de quoi vivent ces gens qui sont en guerre. Alors, je voudrais simplement dire que notre pays a une opportunité, mais une opportunité où il doit jouer un rôle de leadership. Même en termes d'intégration régionale, il faudrait que nous choisissions comment nous nous intégrons. Nous avons la chance d'être le grand. Nous avons la chance d'être celui que l'on envie. Il ne faudrait pas que nous allions dans le plan des autres. Il faudrait que nous fassions entrer les autres dans un plan pour lequel nous avons une vision et une stratégie.
Et l'honorable Kambinga a dit qu'il y avait des problèmes internes, notamment à résoudre également.
Il a totalement raison et il ne se résolve qu'en parlant et en communiquant. C'est pour ça que j'en appelle tout le temps à un débat de société qui va au-delà de la couleur politique.
Pour une plus grande cohésion nationale.
Nous avons besoin de créer cette nation et cet État et ce pays. Et il est important qu'on se rende compte que c'est un devoir de génération.
Professeur Bobo Akayembe, conclusion.
Bon, la conclusion, c'est que là, nous nous sommes dotés d'un plan de travail. L'application de ce plan de travail nécessite l'implication des acteurs publics et des acteurs privés. Nous souhaitons que les chefs d'État qui vont être en sommet déjà à partir de demain puissent récupérer toutes ces recommandations pour qu'ils cherchent à les traduire en actes.
Et donc il faudrait espérer en ce qui concerne l'espace économique francophone.
Il faut espérer.
Voilà. Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Des suggestions, des remarques, écrivez-nous à dec@radiocapi.net. Au revoir.